On vous embarque.
Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
Oh, n'est pas moi qui vais vous causer beaucoup aujourd'hui. Non, Yannick Jelin et son équipe sont venus jusqu'à Saint-Hilaire-la-Palue causer à l'occasion de leur tournée mondiale locale. Vous n'avez plus qu'à écouter la causerie, chères auditrices et auditeurs.
Yannick a eu cette idée géniale de monter cette tournée mondiale locale, voilà, qui est avec une scène tirée par un tracteur et où la majorité des dates se déroulent dans des communes de moins de 1000 habitants. Et puis, il a eu cette seconde idée géniale du pays qui rit dans le ventre, qui était donc cette causerie à 18h30, ça à chaque fois avec une thématique à trouver propre à la commune. Et chaque soir, ça rassemble au moins 150 personnes. Et nous, dans toute cette tournée-là, on a pris de la pêche, du positif, de l'optimisme.
Et des initiatives de territoire absolument incroyables, avec des gens formidables dans toutes les communes qu'on a vues.
Merci de venir vous rapiloter un dimanche au soir. Et là, dans cette belle communauté de monde qu'habitant Saint-Hilaire-la-Palue. Oui, c'est très heureux d'être là. Et vous savez que tous les cerfs, dans cette tournée mondiale locale, ils sont partis en tracteur de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, ils sont allés juste à l'est, jusqu'au-dessus de Poitiers, un peu en dessous. Tous les jours, ils allaient rencontrer les mondes sur pièce pour de rapilotage de monde et de causerie sur le patrimoine immatériel, sur la valeur ajoutée des territoires, sur deux fois de richesses que les gens n'avaient plus l'habitude de remarquer ou de considérer comme intéressantes. Tous les soirs, on avait un thème différent. De serre, ils allaient parler de deux choses différentes. D'abord, là, dans un premier temps, on va parler d'un produit typique du territoire. Et après, ils reviendront vers 18h30 sur les marais mouillés, et en particulier l'eau, le village de l'eau. Donc ça, on aura... Non, pas un village de l'eau. C'était très bien. Putain, il y a des mots que tu prononces, le moteur de Google te remet tout de suite. Le village. Enfin, pas le village de l'eau, non, pas du tout. Alors, là, d'abord, pendant cette première demi-heure, ils allons parler du beurre. Le beurre, ils ont parlé de beurre et particulièrement d'une appellation que sans doute vous vous rappelez parce qu'il y avait une publicité longtemps qui a marché qui faisait. Comment qu'on faisait ? Charente-Poitou. Et vrai que n'a deux générations qui ont été bercées par une vraie réussite marketing à l'époque, parce que la création de ce beurre. Mais au-delà de la marque, même si le marketing est drôlement important, même encore aujourd'hui, ça on en reparlera sans doute, puisque là, avec moi, on a Alexia Cole, qui est responsable du marketing communication pour l'appellation. Hein, c'est-à-dire que c'est l'appellation qui est à Surgères, mais ça, on en parlera peut-être. Et puis à côté, Philippe Robin, qui lui est de Pouliérisson, qui est élève de chèvre à Pouliérisson, mais surtout s'il est là dans la discussion, et parce que les administrateurs de la dernière laiterie indépendante du territoire, qui est celle de Pamplis, où, à mon avis, on fait le meilleur beurre, mais ça, tu ne peux pas le dire, parce que toi, tu es représentante de tous les participants à l'appellation, donc tu peux pas, t'as pas le droit de dire ça.
Non, j'ai pas le droit de dire ça.
Même si tu le pensais.
Alors, non, je peux pas dire ça, effectivement.
T'as pas le droit.
Non, ouais. Même si, effectivement, le beurre de Pamplis est excellent et notamment reconnu par les chefs cuisiniers. Ah. Voilà, c'est le beurre des chefs, le beurre de Pamplis.
Mais moi, quand il va dans une boulangerie, dans une rue de Paris, ou qu'il va prendre un petit déjeuner, puis qu'il voit fait avec du beurre de l'appellation, on me met en joie, moi, ça. Tu vois, il me dit, ouais. Hein. Donc, est encore une marque pour la gastronomie française, le beurre d'appellation. On a une affaire, avant de vous passer la parole, et que ce beurre représente quelque chose d'éminemment important pour les territoires, c'est l'élevage. L'élevage qui est en grand danger, et on a énormément évoqué ça tout du long de ce parcours. On voit bien à quel point les enjeux de la génération qui arrive, ça va être le maintien de l'élevage dans nos territoires, pour à la fois préserver cet élevage, mais préserver aussi les paysages et une forme de rapport à la terre que les céréaliers, encore pire après qu'au-delà des céréaliers, quand c'est les sociétés d'exploitation céréalière qui feront vraiment la pluie et le beau temps sur le territoire. On va un peu parler de ça, mais peut-être que d'abord, ce serait bien de parler un peu de l'historique
de l'appellation.
Donc effectivement, vous connaissez le beurre Charente-Poitou AOP, qui est un beurre sous appellation. En France, il existe seulement 3 beurres qui sont sous AOP. Donc c'est important de le savoir. Vous avez donc le beurre Charente-Poitou qui représente 80% des volumes. Vous avez le beurre d'Isigny, qui est un beurre de Normandie. Et enfin, vous avez le beurre de Bresse, qui est une toute petite production que vous retrouvez dans l'est de la France. Au niveau de l'appellation, donc c'est quelque chose qui est précieux parce que ça veut dire qu'il y a un cahier des charges précis qui est respecté avec une aire géographique. Et donc le beurre Charente-Poitou AOP, comme vous l'imaginez, ne pourra jamais être produit ailleurs que sur notre territoire. En 1979, le beurre Charente-Poitou obtient l'appellation AOC, qui est l'appellation française. Et en 1996, cette appellation est devenue AOP parce que nous avons eu la labellisation européenne. Voilà. Donc c'est quand même assez récent, malgré tout. Et ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que ce que je vous disais en introduction, c'est que on est sur une aire géographique dédiée. Donc l'aire géographique, elle se compose de 5 départements. Donc la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vienne.
Le rapport, vous vous rendez compte que le lien avec la Vendée, qui devrait être naturel, se fait plus qu'avec le beurre. Mais le beurre étant un liant.
Oui, effectivement, c'est une belle transition.
La langue et le beurre.
Ça va être compliqué, cette petite demi-heure.
Je ne sais pas ce qu'on peut en déduire.
Donc en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la production de lait pour réaliser du beurre Charente-Poitou AOP se fait nécessairement et obligatoirement sur ces 5 départements. On a une production de lait à cette échelle géographique. On n'a pas du lait qui va venir d'un autre territoire. C'est pour ça que je rejoins ce que disait Yannick juste avant. C'est qu'on a une vraie problématique sur l'attractivité des métiers liés à l'élevage, parce que on sait que tous les ans, malheureusement, on a des élevages, des gens qui partent à la retraite, et les exploitations sont souvent reprises uniquement pour la céréale, et l'élevage attire de moins en moins. Donc, si on a de moins en moins de vaches, on a de moins en moins de lait, et donc forcément, on a une production de beurre qui va être aussi en déclin. Donc, on travaille au nom de l'association centrale. On est basé à Surgères. On travaille sur cet aspect de l'attractivité des métiers pour faire en sorte que y ait une autre image qui soit valorisée pour les jeunes, pour que ça leur donne envie de venir découvrir ce que c'est que la polyculture élevage. Alors là, je viens de dire un gros mot parce que probablement que c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, et je pense que tu pourras en parler mieux que moi, sur notre territoire, c'est pas une surprise de dire que nos vaches ne peuvent pas pâturer toute l'année. On a des terres qui sont argileuses. On n'est pas en Normandie, donc on n'a pas des grandes prairies qui permettent à nos vaches d'être toute l'année en pâture. Fort de ce constat, on est nécessairement dans une situation où il est important de donner à manger aux vaches. Et donc, les éleveurs se sont adaptés à notre territoire pour pouvoir avoir une alimentation régulière toute l'année pour leurs troupeaux. Et c'est la raison pour laquelle, ici, les éleveurs pratiquent la polyculture élevage. Ils font leur propre culture pour ensuite pouvoir donner une ration régulière toute l'année à leurs troupeaux.
Concernant l'alimentation, ouais, l'alimentation, c'est sûr qu'il y a un cahier des charges à respecter, notamment la quantité de fourrage produit sur exploitation, la quantité de concentré acheté. Pompli et moi, j'ai un parcours là-bas depuis 89 où je suis rentré dans le conseil d'administration à ce moment-là, et je vais voir arriver mon 4e directeur dans cette laiterie. Et pourquoi elle est toujours là? Parce que c'est vrai qu'il y a, dans les années 60-70, il y avait pratiquement une laiterie par commune. Et ça a été une dégringolade à une vitesse grand V dans les années 70. Mais on a perdu. Dans toutes les communes, il y avait une laiterie, quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, quoi? les regroupements, les choix qui ont été faits à cette époque-là. Et c'est vrai que Pamply a toujours voulu rester indépendant. Et elle est restée indépendante parce qu'il y avait des hommes à la base. Bah, c'était les hommes qui ont créé cette Pamply, cette laiterie de Pamply, puis qui l'ont fait perdurer et progresser, c'était leur bébé, quoi. Moi, je me rappelle, je suis arrivé là-bas, j'avais 22 ans. Je suis directeur à l'époque, il s'appelait Raymond Sapin. Putain, c'était un personnage, quoi. Mais sa laiterie, c'était sa vie. Il l'a fait prospérer et il a aussi, le point important, c'est qu'il a transmis. Parce qu'on évoque souvent ce problème de transmission dans les exploitations agricoles, mais dans les entreprises aussi, au sein des petites entreprises comme ça, qu'à un moment donné, il y a des hommes clés, et à un moment donné, et c'est un peu ce qui s'est passé dans beaucoup de laiteries, ces hommes clés sont partis, mais la transmission a eu du mal à se faire, ça a été un peu difficile, tandis que l'histoire de Pamply, c'est que les hommes se sont succédés les uns après les autres, mais c'était des gens de la laiterie, quoi. Je veux dire, qui avaient commencé à la borderie, qui ont progressé toute leur carrière, puis à un moment donné, qui est arrivé en haut, quoi. Bah, il était complètement en mesure de parler de son produit, puis parler de sa laiterie, quoi. Voilà, c'est important dans la transmission des entreprises qu'on ne perde pas ça, des petites entreprises. C'est une histoire d'hommes. Et c'est une histoire de relation aussi avec nous, les paysans. Moi, les directeurs actuels, encore là, quand le paysan a un problème, il prend le téléphone et c'est le directeur, parfois, qui répond, quoi. Et parce qu'on se connaît tous.
Voilà. On est à l'opposé de la caricature de grosses, énormes coopératives qui imposent les prix sans jamais être en relation avec le paysan.
Ah ben complètement. Moi, on sait en permanence où en est financièrement la laiterie, quoi. Ben c'est un avantage énorme et ça crée du lien, quoi. Parce que en plus, bon, dans le conseil d'administration, il y a pas mal de jeunes et justement dans cette distance parfois qui s'est créée entre nous, on fait du lait, et la laiterie le transforme, le vend. Mais cette distance parfois qui s'est créée et puis qui aujourd'hui, il n'y a plus de lien du tout, ça c'est un élément qui a su être préservé à Pamply. Quand vous êtes au courant du lait que vous produisez et puis qu'on vous dit, ben voilà, il a été vendu là, et comme tu disais Yannick, il est sur Paris, c'est le beurre des chefs. Enfin, je veux dire, comment mieux motiver un éleveur laitier parce qu'il sait que c'est son produit, et puis il sait pourquoi il travaille, quoi. Ça restera la clé de la réussite de cette petite laiterie. Alors bon, pas de raison que ça ne s'arrête pas, hein, parce que...
Mais sauf que c'est la dernière indépendante, donc ça veut dire que partout ailleurs, la concentration de l'espace de production laitière aujourd'hui fait que les énormes groupes qui sont à la tête des laiteries ne pourront plus jamais avoir ce genre de relation avec le producteur.
Alors c'est vrai que l'AOP représente des petites laiteries et des groupes plus importants. C'est important qu'il y ait des groupes un peu plus importants qui défendent aussi cette AOP, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché qui est à la fois national, mais qui va aussi un petit peu plus loin. Et c'est vrai que l'AOP est hyper importante, parce que quand vous allez un petit peu à l'étranger, l'AOP c'est vecteur de bon, a une image commerciale de bon. Mais il y a aussi un point important, c'est les process de fabrication. Que le beurre, quand vous parlez, c'est du parler de beurre de baratte. Et en fin de compte, c'est quoi une baratte aujourd'hui? Bon, comme je disais, il y en avait parfois dans les fermes. Mais aujourd'hui, il y a très très peu de laiteries en France aujourd'hui qui font du beurre de baratte. Il y a Pamply, il y a Échiré. Je ne sais pas si Isigny fait du beurre de baratte. Si, il me semble. Mais voilà. Et ça, c'est aussi une valeur qu'il faut défendre. Parce que le beurre de baratte, c'est lié à l'histoire du beurre. Je veux dire, c'était la base de la fabrication, la baratte. Et aujourd'hui, parfois... Le consommateur ne sait peut-être pas toujours cet élément-là, quoi. Et ça fait vraiment partie du patrimoine. Quand tu parles de patrimoine aujourd'hui, de savoir-faire, on est en plein dedans, quoi, avec la baratte, quoi.
Alexia, toi, tu sais bien que ce beurre, maintenant, on le trouve dans plein de pays ailleurs. Alors, oui. Dis-nous un petit peu aussi jusqu'où il va. Et est-ce que les dernières laiteries, parce qu'il n'y a plus que 6 laiteries.
5.
5. 5 laiteries pour toute l'appellation. Alors qu'il y en avait à peu près une par village dans les années 70. C'est absolument sidérant ce qui s'est passé.
On est monté jusqu'à 200 laiteries, je crois, sur le territoire. Le beurre Charente-Poitou-OP, il est commercialisé à l'étranger. Il y a à peu près 15% de la production qui est vouée à l'export. Donc déjà, juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, il y a 21 000 tonnes de beurre Charente-Poitou-OP qui ont été produites. Donc c'est quand même un volume intéressant et impressionnant. On est la deuxième plus grosse AOP laitière de France. En France, vous avez 51 fromages, beurre et crème sous AOP. La première AOP française en termes de volume, c'est le Comté. Et la deuxième, donc, c'est le beurre Charente-Poitou AOP. Donc, les volumes qui sont exportés, l'AOP, c'est une garantie, c'est un gage de qualité. Donc, effectivement, c'est très bien accueilli. Déjà en France, ça a une très bonne notoriété. Mais à l'étranger, encore plus. AOP plus le drapeau bleu, blanc, rouge, là, vous mettez des étoiles dans les yeux de beaucoup de chefs et d'artisans boulangers pâtissiers. Les marchés qui sont aujourd'hui touchés, c'est le marché asiatique. Vous allez retrouver pas mal de beurre sous notre label là-bas. Et puis de plus en plus, vous allez avoir tout ce qui est autour du Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Voilà, c'est des marchés qui sont vraiment friands de notre beurre. Alors notre beurre, il est utilisé, vous le retrouvez, vous, grand public, au sein des laiteries, mais vous le retrouvez aussi dans votre grande surface où vous avez probablement l'habitude d'aller faire vos courses. Notre beurre, il est très utilisé par les artisans boulangers pâtissiers. Les caractéristiques techniques font que les artisans qui travaillent le beurre pour faire un feuilletage de qualité, donc le feuilletage, on l'utilise pour les croissants, les pains au chocolat, les galettes, tout ce qui va être un peu gourmand. Nous, en tout cas, on est le beurre de référence pour les artisans boulangers et pâtissiers parce que pendant la phase de fabrication du beurre, on a une phase qui est très importante et qui caractérise le beurre Charente-Poitou AOP, c'est la phase de maturation biologique lente. Quand le lait arrive en laiterie, on extrait la crème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de garder que le gras du lait. Une fois qu'on a extrait la crème, on va la faire maturer avec un ferment lactique naturel. Et cette phase, en fait, elle va durer 16 heures. Donc, c'est très long. Et on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, ça justifie aussi qu'on paye un beurre potentiellement un peu plus cher qu'un beurre qui n'a pas de phase de maturation biologique, qui va sortir en l'espace de 2 heures. Pendant 16 heures, la crème s'arrête et mature. Et c'est ce qui va permettre de développer tous les arômes de notre beurre et les caractéristiques techniques. Donc il est reconnu pour son goût de noisette, le beurre Charente-Poitou AOP. Et puis ces caractéristiques techniques que les professionnels reconnaissent, ça va être tout ce qui est malléabilité, élasticité. Parce que quand vous faites une pâte feuilletée, le but c'est qu'elle ne casse pas. Et que du coup, quand alors je ne sais pas s'il y a des experts de la pâtisserie, une pâte feuilletée, ça demande en fait des tours et des tours de tourage. Et quand vous avez un beurre en fait... qui ne casse pas et qui en plus ne se fond pas avec le pâton. Voilà, vous avez bien en fait les différentes strates. Vous avez une strate de pâton, une strate de beurre, une strate de pâton, une strate de beurre pour voir en fait cet effet de feuilletage. Normalement, avec un produit de qualité comme le nôtre, vous êtes censé pouvoir régaler les papilles de tout à chacun.
Après le beurre, y allons parler de l'Ève.
Voilà, de Saint-Hilaire-la-Palue, village Lacustre.
Alors le problème est que... il a quand même un handicap, le vient d'au marais breton.
Donc pour cette causerie, il y avons donc Doubé Monde, Marie-France et Claude qui sont natifs de Saint-Hilaire-la-Palue et qui allons nous parler de autrefois, quand l'essentiel des déplacements se faisait en barque, parce que c'était une autre vie. Il y a donc également Yves Lequelec qui est un auteur de nombreux ouvrages sur le marais poitevin qui nous fera un petit point historique. Et puis François Bonnet, qui est donc non seulement le maire de la commune, mais en plus qui est un excellent joueur de baby-foot. Et hier, il a mis une tôle à notre sonorisateur. Autant dire que le gars, depuis, il rampe.
Ouais, puis c'est un breton, ça lui fait beaucoup de bien, parce qu'ils sont un peu fiers par rapport à nous. Tu vois, ils ont un côté un peu méprisant, surtout sur les deux Sévriers. Hein.
On va commencer donc avec vous, Yves, ou avec toi, Yves. Peut-être maintenant que ça fait deux fois qu'on se voit, qu'on sait se tutoyer. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait ce long travail qui a duré des siècles, je crois, pour dompter l'eau et créer le marais poitevin ?
Merci bien.
On a dit 8 siècles, une minute par siècle.
Les grands travaux d'aménagement du marais poitevin, ils ont commencé, à ressembler à quelque chose au 12e, 13e siècle, mais beaucoup plus à l'aval, loin d'ici, 60 km à l'aval, plus près de la mer, parce que simplement, il y avait... l'idée qu'on pourrait sans doute évacuer beaucoup plus facilement les eaux excédentaires plutôt que d'ici. On avait beaucoup de mal à les tirer. Donc il y a une série de périodes où en fait ça a démarré beaucoup plus tard. Ça n'a guère démarré avant le premier premier tiers et après du 19e siècle, avec une impulsion forte qui a été donnée par l'État à l'époque. L'État à l'époque, c'était un roi, c'était Louis-Philippe, qui a pris une ordonnance qui déclarait d'utilité publique un programme de travaux d'assèchement des marais mouillés de Charente-Maritime, de Sèvres et Vendée, en gros 15 000 hectares. Sur le papier, ça devait rouler et ça devait fonctionner avec une association de l'État, parce qu'il y avait l'enjeu de la Sèvre-Niortaise, voie navigable essentielle, contrôlée par les services de l'État, les ingénieurs des ponts et chaussées à l'époque. Et puis, il y avait tout le reste du marais dans les mains de propriétaires privés. Et donc, l'État a créé, de manière un peu autoritaire, trois syndicats de marais mouillés, un pour les Deux-Sèvres, un pour la Charente-Maritime, un pour la Vendée. Et puis, c'est parti comme ça, avec des financements croisés de l'État et des propriétaires qui étaient donc assujettis à une taxe de marais pour financer de grands travaux qui ont démarré, en gros, dans les années 1840. Ce qui est très impressionnant quand même, j'insiste là-dessus, c'est qu'en 30 ans, sans mécanisation, on a creusé quelque chose comme 2000 km de voies d'eau nouvelles, voilà, donc à bras d'homme, qui, comment, on ne sait pas trop, parce que, évidemment, le petit peuple salarié, il n'est pas vraiment inscrit dans les archives. On trouve beaucoup plus les travaux des ingénieurs et des administrateurs. Mais voilà, il y a eu un travail effectivement considérable qui a été réalisé dans un pas de temps assez bref, une trentaine d'années, avec un objectif de valoriser des marais qui n'étaient pas inexploités, qui n'étaient pas ignorés. On est passé donc assez vite d'un monde d'usage du marais par les gens du cru à un monde qui est rentré dans des logiques plus de production marchande. Il y avait les voies d'eau, donc on pouvait rentrer dans un système de commerce vers les ports extérieurs, y compris Marans ou au bout de la Sèvre, où il y avait effectivement une activité commerciale importante. Il y a eu des charnières fondamentales. Celle que je viens de décrire, c'est une charnière fondamentale. C'est l'État qui dit « on y va, on va faire ». Il y avait des vignes tout partout, sur les plaines aux alentours, là. Le phylloxéra, donc un petit insecte venu des États-Unis, a en quelques dizaines d'années ruiné complètement cette activité viticole. Et c'est là qu'est apparu l'élevage, tout ce système de coopératives laitières qui s'est répandu dans tous les villages. Un marais mouillé qui est soumis à de fortes contraintes d'inondabilité. On est loin de l'évacuation, donc on n'arrive pas, malgré tout ce qui a été fait, tout ce qui a été imaginé, on n'arrive pas à s'affranchir de cette réalité-là. Et donc, ça coûte très cher. Parce qu'il faut sans arrêt y revenir. Il y a une obligation d'entretien, de rénovation perpétuelle. Et sans arrêt, il y a des aléas météorologiques qui viennent mettre un peu tout le monde, des grands coups sur la tête de tout le monde et qui fait qu'il faut reprendre sans arrêt le chantier. Et dès les années 1920-1230, on voit très bien que ça fatigue, quoi. Que les 30 années de grands travaux ont donné un essor, mais que tenir le rythme, maintenir le système, c'est une autre affaire. On n'y arrive plus très bien. Il y a besoin de main-d'œuvre. La main-d'œuvre s'en va. C'est le début de l'exode rural. Et pourtant, il faut du monde. Et puis après, il y a eu la guerre. Le premier exode, il commence avant. Et on voit dans les années 1880, on voit la population des communes qui avait commencé effectivement une croissance. Ça redescend très vite. Et le développement économique, finalement, il n'est pas tellement tenu. Voilà. Parce que c'est un milieu quand même très particulier, très exigeant, qui demande beaucoup de moyens, qui demande des gens pour s'en occuper. Et c'est tout le problème. Et dès cette époque-là, on voit les responsables locaux s'inquiéter de leurs difficultés et dire qu'on a besoin de relais, notamment financiers, de la part des collectivités, les communes, les premiers groupements de communes. C'est des milieux qui sont certes productifs, qui sont qualitatifs, qui ont beaucoup d'intérêt, mais qui demandent des efforts considérables et constants qu'on a du mal à tenir dans la durée. On a des villages-rues avec l'habitation, avec la belle façade sur la rue, puis derrière, s'étageant sur le coteau jusqu'au marais, jusqu'à la voie d'eau, jusqu'au port, qui peut être privé ou qui peut être un port collectif. Et on a des immenses dépendances agricoles parce qu'il fallait que le bétail puisse rentrer quand il y avait la crue, et il fallait aussi stocker pour les animaux. L'accès à l'eau était fondamental. Tout se faisait par la voie d'eau.
C'est qu'on a toujours l'impression, c'est la tradition, le marais de toute éternité. En fait, ce marais dont on va parler peut-être maintenant, il a duré qu'un siècle, quoi, grosso modo. Ce marais avec ses milliers, ses dizaines de milliers de conches, etc. Et en plus, il est tout le temps en mouvement pour transporter les bêtes, la pêche.
Tant qu'on répète, je suis né en 39 mois, juste avant la guerre. Mais à ce moment-là, toutes les familles avaient un, deux, quoi, trois barques quelquefois. Si peu que le papa était chasseur, il y en avait les périssoirs. Mais tout se faisait en barque. Hein, tout se faisait en barque. On embarquait les bêtes dans le marais, on embarquait les chevaux. Mon père, toute petite anecdote, on avait un marais tout à fait au fond du marais. Il y a au moins 4-5 km de là. Il embarquait la jument, en port de Montfaucon, la petite charrue, un petit semoir à un rang, et il couchait là-bas parce qu'il ne pouvait pas faire ça dans la journée. Mais ma mère était inquiète, tu vois, parce que...
Donc ton père découchait.
Mon père découchait, déjà. Voilà. Et après, il y avait une vieille femme, elle devait être veuve de la guerre de 14, qui allait trier les mojets. Parce qu'on n'avait pas parlé de ça. Il y avait une fortune dans le marais, ouais. C'était les mojets.
Demi-secs.
Demi-secs,
surtout. Hein, oui.
Ah oui. Et cette dame, elle allait au mauvais bout, hein, trier les mojettes là-bas à moitié, enfin les faisant tirer, mais le paysan proposait le terrain, les chevaux, la semence, et la dame là, eh bien, elle faisait le triage, quoi, pour en aller lui aider. Moi j'étais tout petit, mais on y allait, hein, en bateau, j'avais pas 10 ans, hein. On allait dépaletter les mojettes là-bas.
Et mais ça était un statut particulier, étaient deux personnes qui n'étaient pas propriétaires de terre. À qui on, et qui avaient juste le droit d'exploiter un peu.
En partager, mon père avait le marais, eh bien, il fournissait les chevaux, la semence, et la dame, cette dame-là, eh bien, triait les mojettes, puis à moitié.
Un métayage, quoi, c'est un genre de métayage.
Si vous saviez, on disait les femmes autrefois. Vous avez voulu que je cause, hein, ben je peux causer. Les femmes, là, on disait les femmes autrefois, elles commençaient l'année à Saint-Hilaire-la-Palue à trier les pissenlits quand l'eau n'était pas sur le marais. Hein, faisait pas chaud. Elles les triaient. Prête à vendre. Et le marchand, il y avait un marchand, M. Viau, oui. Qui était là. Hein. Et après, le temps passait un petit peu, c'était la saison des mojettes. Donc, elle ressemait des mojettes avec, ou mon père, ou d'autres paysans. Après, elle se louait pour trier ses mojettes avec la binoche. Il n'y avait pas de désherbant. Donc, ça, c'était le cycle du marais. Et un marais qui était à vendre.
Plus le travail à la maison, ça a été juste le travail.
Les femmes, hein, elles en travaillaient. Hein. Mais elles se louaient toute l'année à trier les mojettes. Après les mojettes, on faisait des mojettes demi-secs, mais après des mojettes sèches, des rouges. Et il y avait et des rouges. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient des rouges. Mais ils en faisaient.
Des chiens comme carnet, peut-être.
Hein, je ne sais pas. Non, pas. Donc, il fallait. Elle n'est pas prête à vendre, donc on donnait ces femmes les trier à la maison, hein, à trier. Hein. Elles étaient payées au kilo, ou je ne me rappelle plus, hein, ou au sac, hein. Mais c'était une fortune. Je n'ai pas trouvé un marais à vendre, c'était la foire d'Empogne à qui acheterait le marais. Les paysans, mais aussi les ouvriers. Chez nous, il y avait la laiterie, il y avait les petites tuileries, il y avait des petites scieries. Donc les gars travaillaient là, mais ils achetaient un marais, premier boulot, planter des arbres autour, ça servait pour la retraite. Il fallait 30 ans pour faire venir un peu payer. Voilà, ça c'était la vie du marais.
Vous, Marie-France, donc, pareil, vous avez connu cette vie où l'essentiel des déplacements se passait en barque, et surtout vos parents.
Mes parents, oui, de déplacement en barque, parce que moi je suis de Saint-Hilaire, mais je suis née en 49. Donc c'est le commencement des chemins, des tracés, tout ça. Alors là, on prenait la charrette, on s'en allait aussi à 3-4 km pour faire les travaux de la journée. Emmener les bêtes et tout. Et au départ, c'était guère que des tracés. Ce n'était pas des routes comme on a aujourd'hui, seulement avec ensablé, quoi. Alors, parfois, ça faisait des ornières comme ça. Enfin...
Et vos parents, pour aller à l'école, ils y allaient comment?
Ah ben nous, mes parents, ils ont eu la chance qu'ils habitaient dans des villages pas très loin. Alors, ils devaient y aller à pied.
Il n'y avait que Ludon qui était un peu au bord du marais. Mais autrement, nous, tous les villages du marais sont au bord. Que ce soit Coulon, Arcé, Donvic, il y a le côté marais et le côté champ. Quand on dit aujourd'hui, vous voyez, il y avait 1 mètre 50 d'eau sur le marais. Il y a des gens, je les emmène, moi, j'ai une méhari, alors je les emmène, puis je gagne de l'argent, croyez-moi. à Lidon, là, et au bord de l'eau, il y a encore une belle maison qui est là. Et le point culminant, ça a été en 82. Il y a un pompier, si vous êtes de vers là, qui s'est noyé à Niort. Et ce monsieur, il a fait une marque sur son seuil, et donc, où l'eau était là. Mais il y avait au moins 1,50 m d'eau sur le marais à cette saison. Vous vous rendez compte, 1,50 m d'eau. On dit ça à des gens aujourd'hui, ils ont de la peine à nous croire.
Hein. Ah, oui, on m'a même raconté qu'il y avait des gens. Alors c'était évidemment peut-être début du 20e siècle, qui amarraient leur barque au lit, parce qu'en cas d'inondation, pour pouvoir partir.
Il y avait quelques maisons isolées dans le marais, et puis il y en a, oui, que si c'était pas au lit, mais c'était vraiment au bord de la cuisine que la barque était. Mais ça, c'était quand même avant.
Pour le coup, il y en a une maison qui était à vous. Elle est en plein cœur du marais, c'est sûr. Elle a été habitée jusqu'en 1914.
Oui, elle a été habitée jusqu'en 1902, seule, hein. Environ.
Et les cortèges pour les mariages et les enterrements?
C'était pareil. Tous ceux qui étaient loin, c'était la même chose. Mais moi, je suis au village de la Rivière. On a toujours pris une charrette, un véhicule à cheval. Oui.
Non, mais les villages ne sont pas dans le cœur du marais. Il y a toujours le côté champ et le côté marais. Vous avez parlé tout à l'heure des villages-rues. Ben voilà, la Rivière, nous, là, un peu plus loin, c'est un village-rue. Il y a le côté, les fermes sont au bord, le bateau d'un côté, et puis la grange. Voilà, c'est exactement ça.
Moi, quand j'habitais à La Taillée au début des années 80, on avait un gars qui allait au marché dans sa barque. Et quand le revenait, il était tellement bombardé, le marché à côté, mais dans la rivière, dans la conche, et il tirait sa barque derrière lui. Elle était bien dressée, elle suivait.
Mais Lidon, du coup, a même été inondé l'année dernière, l'hiver passé, qu'on a eu beaucoup de... Quand ça monte de trop, c'est toujours... Voilà.
C'est pas arrivé, les enfants de Lidon, il y a quelqu'un qui en bateau. Oui, en tracteur, ils avaient un tracteur. Mais pas un petit tracteur, hein, parce qu'il fallait que les housses soient... Mais c'est très rare aujourd'hui. Mais autrefois, c'était tous les hivers, 1 mètre, 1,50 m d'eau sur le marais. Et on ne vous parle pas des anguilles. Un cras. Ouais.
La crue est un mot masculin, et comme on dit, une souris et un vipère. Et la crue, on est masculin, on est un cras.
Alors, on peut parler des chemins. Les chemins, 1950, les premiers chemins. Et ça, je raconte souvent ça aussi. Ça a été un petit peu le Far West, hein. Les diligences, vous savez. Mais là, ça a été pareil. C'était pas des chemins comme ça. Il y avait des ornières, hein. Même moi, môme, hein, j'avais 10 ans, donc vous voyez l'âge que j'ai. Et ben, quand on montait sur la charrette de foin, fallait faire attention. Après, ça nous est arrivé.
Fallait l'équilibrer. Fallait l'équilibrer, les charrettes et tout, parce que.
Pendant qu'il continue la conversation, on en partait derrière. On va continuer avec un autre sujet qui est donc le bris. Alors racontez-nous ce que c'est et puis qu'est-ce que ça a permis de faire.
Le bris, c'est de l'argile qui était pris dans le marais. Alors à l'époque, ils allaient le chercher en bateau avec un boguet et dans les bateaux, et c'était du travail. Et du coup, il y a tous les trous de bris que vous voyez dans le marais, c'était pour faire les tuiles. Aujourd'hui, on s'en sert pour faire des murs, pour isoler, pour... Mais pour trouver le bris, aujourd'hui, on n'a plus le droit de creuser dans le marais avec le site classé. Du coup, ça, c'est une perspective pour le marais de dire, si on veut du bris, on était incapable d'en trouver parce qu'on n'est pas, c'est pas possible aujourd'hui de creuser. Alors que les étangs qui ont été faits, ça fait partie du patrimoine. Donc il y a des choses, j'ai du mal à comprendre. Autrefois, les gens, dans les années 50, hein, jusqu'aux années 50, un peu avant, il y avait beaucoup de doubles actifs qui faisaient soit du bois, de la culture en autosuffisance, et puis ils faisaient des tuiles manuellement, et ils les laissaient sécher très longtemps, 6 mois, 7 mois, mais c'était un séchage naturel. Ce qui fait que notre bris convenait à faire des tuiles de cette façon-là. Et après, il y a eu une tuilerie un peu plus... Alors bon, je vous passe les étapes, parce qu'il y a eu des fours, et il y a eu une tuilerie, la dernière tuilerie, qui a été jusqu'en dans les années 70. Et ils ont voulu augmenter la cadence. Et les tuiles étaient toutes fissurées parce que le bris y convient de façon artisanale. Donc aujourd'hui, on pourrait recommencer à faire des tuiles, mais de façon artisanale, qui sont très résistantes parce que il y a encore quelques années, on avait encore des toitures qui étaient faites avec des tuiles manuelles.
Les roseaux, les ruches, c'était pas pareil. Les ruches, c'était pour... On couvrait les... non pas toi, on couvrait les barges de foin quand elles étaient dans, avec des rouges qu'on allait chercher dans le marais. Parce que les roseaux, c'était haut, puis ça servait. Il y a encore des toitures qui sont comme ça aujourd'hui, les roseaux. Hein.
C'est même une différence entre la Brière en Loire-Atlantique et le marais breton. C'est qu'effectivement, c'est des marais là-bas aussi. Et avec les roseaux, on fait les toits de chaume et on fait des murs en terre battue qui ont l'intérêt de l'hiver de garder la chaleur et l'été de faire la fraîcheur. Et c'est vrai que moi ici, l'une des surprises que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de maison en toit de chaume parce que vous avez ce bris qui a permis de faire des tuiles et des briques.
Le roseau, c'était juste une petite couche entre le dernier plancher, en somme, et puis les tuiles. Un petit isolant, comme on met de l'isolant maintenant.
Vous savez, à Saint-Hilaire, un petit peu de racisme. Parce que ça a toujours existé, ça. Mais à Saint-Hilaire, un tout petit village, il y avait des tuileries. Et donc, pour faire des tuiles, il fallait sortir, comme a dit François, l'argile. Et il n'y avait pas, c'était ça, hein. C'était tout à la main, hein. Creuser peut-être 2 mètres, peut-être plus, jeter ça sur le bord, aller chercher les grandes barques, charger les barques, et puis charger les barques jusqu'au bord, là. Et il lissait bien, pour pas que l'eau rentre dedans. Et il n'y avait pas assez de monde, vous voyez, déjà là, il n'y avait pas assez de monde à Saint-Hilaire pour faire tourner. On a été chercher des gens au Limousin. Ah ben, croyez-moi, je m'en rappelle, moi. Hein, ben, ils n'étaient pas bien vus quand ils arrivaient, ces messieurs. Puis il y en a qui se sont installés, qui ont fait des familles. Après, on s'est élargi un petit peu. On a fait la CERAM, comme ils disaient. Et là, pareil, il n'y avait pas assez de monde pour faire travailler. Donc, on a élargi un peu. On a été chercher des Espagnols et Portugais. Et ça a été la même histoire. Hein. C'est pas bien vu. Ben, il y en a qui se sont installés aussi. Il y en a qui s'appellent, il y a des familles de Souza, là. Ils se sont installés. Hein.
Ben, Marie-France, jusqu'à quand ça a duré les briqueries?
Oui, aux environs de 78, 79. Oui, la dernière grande, oui, qu'on appelait la CERAM, oui.
Et ça faisait travailler combien de personnes?
70 personnes à peu près. Mais à Saint-Hilaire, dans les années 40, il y avait 21 tuileries. On voit que c'était de l'artisanat, mais qui employait du monde. Aujourd'hui, c'est complètement perdu. On est complètement perdu.
En fait, il y avait beaucoup, beaucoup de polyactivités. Beaucoup de gens qui avaient une activité, un peu d'ouvrier, un peu de culture. Et même dans la culture, on voit bien qu'il y avait du bois, de la mogette, de l'élevage.
Voilà, tu as tout dit. On avait 2000 vaches à Saint-Hilaire dans les années 60. Si, il y a des vaches allaitantes, mais il n'y a plus de vaches à lait. Donc, je vois le collègue qui parlait de beurre à hausser. Et c'est vrai que chez nous, il y avait 2000 vaches. Donc, les gens, ils consommaient le lait, ils faisaient du fromage, du beurre, du fromage. Chacun avait sa baratte. Il y avait une laiterie à Saint-Hilaire-la-Palue qui faisait le champéroux, qui était un fromage de vache à pâte pressée à croûte noire. Et il est perdu, ce fromage.
Les laiteries, effectivement, elles avaient toutes un peu une spécialité et chacune faisait son fromage ou ses fromages. Il y avait des fois des variétés, mais effectivement, il y avait une diversité extraordinaire. Et ce qui faisait en fait la force du marais, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on arrivait, je ne dis pas que c'était facile, certainement pas, mais on arrivait à vivre en exploitant différents compartiments. On pouvait faire le bois, on pouvait élever, on pouvait pêcher, on pouvait chasser. Il y avait une palette d'activités qui avaient le grand avantage d'être compatibles les unes avec les autres. Et là où les choses ont commencé à déraper vraiment sérieusement, c'est quand on a commencé à voir se développer des activités, notamment du côté de l'agriculture, qui ont écrasé tout le reste. Ce n'est pas fini, malheureusement. C'est un processus qui, à mon avis, est encore en cours. Il y a un gros chantier à ouvrir. Si on veut prolonger l'histoire de ce marais, il faut arriver à reconstruire un type d'exploitation qui rejoigne cette diversité d'usages et cette compatibilité des usages les uns avec les autres. Et ça, ce n'est pas gagné dans le monde actuel, effectivement.
Eh oui, puis en plus se rajoute cette dimension du tourisme aujourd'hui. Alors par rapport à l'usage de la barque qui était de l'ordre du quotidien, aujourd'hui la barque, François, c'est essentiellement le tourisme. Parle-nous un peu plus de ça, de cette perspective. En plus, toi, tu avais 24 heures de la barque.
À Saint-Hilaire, le marais, il est resté tel qu'il était il y a un siècle, quoi, à peine un siècle. La problématique du marais, c'est d'entretenir les conches, d'entretenir les chemins. Alors les chemins, vous avez vu, ils sont tous... biscornu, c'est que les propriétaires, ils ne laissaient pas tous passer le chemin. Donc,
parce que les gens ont donné du... Je dis, ils n'ont pas fait une... Je raconte souvent ça. J'avais 10 ans. Il faut qu'on fasse des chemins. Faut, donc les deux, trois paysans, hein, Gaston Bouchamp, entre parenthèses, quoi, qui était là, qui était un homme respecté et respectable, ils leur dit, faut qu'on fasse des chemins. Donc voilà, ils ont tracé un peu des chemins. Et donc, il y a des gens qui ont bien voulu donner, mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu. Donc, si tu ne voulais pas... Tu voulais pas. Donc, ben, fallait trouver un autre.
Du coup, il y a l'entretien de ces chemins, l'entretien des cours d'eau, parce que tous les 10-15 ans, il faut revenir. Et on a une capacité de réserve d'eau qui n'est pas toujours faite correctement. Et puis, l'activité touristique, alors la particularité de Saint-Hilaire, si vous voulez, là, il y a quelques bateliers, mais c'est finalement peu, et puis c'est quand même saisonnier. Donc, il y a une activité qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante et puis qui ne permet pas d'entretenir le marais non plus. Donc, il faut vraiment que nos collectivités... Alors bon, pareil, je ne vais pas vous embarrasser avec tout ça, mais on a des problèmes pour l'entretien des chemins et l'entretien des cours d'eau. Et sur des communes comme Saint-Hilaire, on a 72 km de chemin et je ne sais pas combien de voies d'eau, mais c'est énorme. Et il y a besoin de l'entretien. Et les propriétaires, alors, comme il n'y a pas eu de remembrement, et s'il y avait eu un remembrement, il n'y aurait plus de marais comme il est. Donc aujourd'hui, le marais, il est resté intact. Et puis, c'est ce qui fait la particularité et puis la tranquillité du marais et la beauté. Par contre, tous les propriétaires, je ne sais pas, moi, sur la commune de Saint-Hilaire, on est peut-être 1300 propriétaires. Donc, quand tu as quelqu'un qui décède, il y a les enfants donc, qui sont divisés. Alors, autrefois, on divisait par deux ou trois. Mais maintenant, ça reste en individu. Donc, c'est très compliqué et il y a plein de petites parcelles. Bon, on retrouve quand même à qui elles sont. Mais du coup, c'est la difficulté du marais aujourd'hui pour embaucher puis faire des travaux. Et puis, je vous disais, ben, le bris pourrait être une ressource pour quelques marais. Mais on a du mal à le faire. Et puis, ben, l'élevage, on sait ce qu'il est aujourd'hui. Il y en a très peu. Et puis, alors en plus, pour les agriculteurs, c'est vraiment difficile. On dit qu'il ne faut pas manger de viande, les vaches polluent. Enfin, les vaches qui vont dans le marais ne mangent que de l'herbe. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, quoi ? Et ça, c'est quand même une pression pour les agriculteurs et qui est quand même difficile à vivre, hein, en général. Donc, je ne sais pas l'avenir. L'avenir touristique, ça, c'est sûr. Mais par contre, ce n'est pas suffisant parce que pour l'entretien, s'il n'y a pas de gens pour l'entretenir, c'est une friche.
Vers Coulon, on appelle ça la Venise verte. Je ne sais pas si ici, ça fait partie de la Venise verte. Et pourquoi Venise verte ?
Parce que c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai fait la recherche. Le terme de Venise verte, il date de 1902, très précisément daté. Et l'auteur de ça, c'est un érudit niortais, qui s'appelait M. Clouzot. Et c'était l'époque où commençaient à se développer les premiers offices de tourisme. Et donc, c'est les élites niortaises, la bonne bourgeoisie niortaise, qui ont commencé à regarder ce marais de manière un petit peu nouvelle, avec une vision un petit peu romantique. Voilà. Donc, les 15 000 hectares de marais mouillé, là, dont j'ai parlé au début, font partie de la Venise verte. C'est une invention, c'est un slogan touristique dès 1902. Voilà, premiers offices de tourisme, c'est l'idée que ça devient un espace de loisirs pour les gens qui commencent à pratiquer le tourisme à l'époque. D'où les premières entreprises de bric et de broc, un peu, de promenade en barque avec restaurants associés, des choses comme ça, autour de Coulon et ailleurs. C'est comme ça que ça démarre. Et puis, c'est comme ça que ce marais mouillé devient un décor, qui est aussi le décor dont s'emparent un certain nombre d'artistes, des écrivains, Gaston Chérault, Ernest Perrochon, dont s'emparent évidemment des peintres. Voilà, ça devient un sujet. Les peintres viennent sur le motif magnifier voilà, les voûtes d'arbres têtards sur les conches. Et puis, petit à petit, les photographes, et puis plus récemment, les cinéastes. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est née cette image d'Épinal, d'un marais un petit peu figé dans une image du passé, ben, authentique. Ça mérite d'être discuté, parce qu'effectivement, on voit bien que c'est le marais, il bouge, il évolue, il a des difficultés. Et que celui dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas celui qui existait en 1902, ni en 1950, ni même en 1970.
Cette idée de verre, ce n'était pas dû aux lentilles ?
Pas tellement, je ne crois pas. Non, non. Je vous dis, j'ai fait la recherche. C'était plutôt l'ambiance générale de la verdure, des frondaisons dans lesquels les gens circulaient en barque. Ils étaient à l'ombrage des peupliers et des frênes.
J'ai un désaccord à ma gauche.
Il a raison. Mais il y avait aussi, ça venait aussi parce qu'il y avait des lentilles qui étaient toutes vertes. Moi, il n'y en a plus. De toute façon, vous n'avez plus une lentille. Mais moi, j'ai vu mon grand-père, quelquefois, installer devant sa barque quelque chose, des planches pour pousser que les lentilles se mettent de chaque côté du. Tellement il y en avait. Et il n'y en a plus aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus une lentille. Hein. Ah oui, si vous vouliez pousser la barque en plein été, il y avait vraiment épais de lentilles, quelquefois. Hein. Mais c'était aussi, vous avez raison, si vous connaissez. Non, vous avez raison. Les gens de New York qui venaient faire de la barque à Coulomb, c'était des aristocrates. Enfin
Depuis le début, je n'ai pas entendu le mot Jussie. La Jussie, on en avait beaucoup dans les années 90, 95. Et puis là, vraiment, les collectivités ont fait un gros travail et un gros travail manuel. Bon, je dois citer en particulier le parc. Et puis les collectivités, quand même, qui ont soutenu la GEMAPI, enfin, l'IBSN. Et effectivement, le travail qui a été fait dans le Marais, il a été exemplaire. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont s'en servir d'exemple dans le Marais breton.
Excellent. Je voudrais que ce garçon, Pierre Guérin, qui est le président de l'association, co-président de la Conchérigole, et qui donc organise le week-end prochain les 24 heures de la barque. Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas les 24 heures de la barque, donc parlez-nous de ça.
D'abord, l'association Conchérigole, qui porte bien son nom, est une association qui existe depuis 1985 sur la commune et qui a été créée à l'initiative de la municipalité à l'époque pour développer justement l'activité touristique sur le Marais qui était naissante sur la commune. Il a été imaginer une course d'endurance en barque, un petit peu inspirée des 24 heures du Mans, mais avec la plate de chez nous, avec la barque traditionnelle. Et puis, depuis, ça a perduré avec des équipes bénévoles qui se sont relayées, toujours soutenues par la commune. On est heureux de vous accueillir le week-end prochain pour la 39e édition.
Il y a un règlement international pour ces 24 heures. Et là, ça me semble intéressant de donner les détails de ce règlement.
Du coup, le règlement, c'est d'avoir une barque traditionnelle qui fait telle dimension à l'avant, telle dimension à l'arrière, tel poids. C'est possible de venir avec plus, c'est possible de venir avec moins, mais c'est 100 kg la barque. Si la barque fait 80 kg, on rajoute un parpaing. Et l'idée, comme aux 24 heures du Mans, c'est de venir avec sa petite partie staff et de tourner en rond sur une boucle qui fait 2,2 km, de faire le plus de tours possible. Ça va un petit peu moins vite que les 24 heures du Mans, mais il y a à peu près la même effervescence et c'est toujours un moment très, très apprécié.
Et comment ça se passe la nuit ?
Eh bien la nuit, ça se passe comme dans la journée, il faut ramer. Sur le même circuit, quelques obligations quand même, c'est une vraie course d'endurance, c'est une manifestation très familière et très rigolote. Par contre, on exige quand même un certificat médical par exemple, et aussi d'avoir effectivement un phare à l'avant, de ne pas pouvoir se percuter pendant la nuit. Et le défi, c'est surtout d'arriver à justement passer la nuit, parce que c'est le moment le plus compliqué psychologiquement. Une fois que le soleil se relève, ça repart, etc. Mais en tout cas, le site reste ouvert, la buvette reste ouverte. Enfin, c'est un événement qui dure 36 heures, en gros, et c'est un beau défi, et pour les rameurs, et pour les bénévoles et les participants en général, auxquels souvent les gens ont à cœur de revenir l'année d'après pour réitérer l'expérience.
Si j'ai bien compris, il y a un jury international qui, de jour comme de nuit, pointe tous les passages de chaque barque, etc., pour pas qu'il y ait de tricherie. Et combien ça ressemble de spectateurs ?
Alors, le site est gratuit et immense. Du coup, on a toujours un petit peu de mal à évaluer le nombre de personnes, mais c'est plusieurs milliers, quoi. Enfin, sur les deux jours, sans souci. L'objectif, c'est d'accompagner les rameurs. Enfin, les anciens avant nous disaient souvent que c'était les rameurs qui faisaient la fête. Et effectivement, c'est vrai. Enfin, sans rameurs, cette fête, elle n'existerait pas. À nous, responsables, d'arriver à animer le site avec un bel espace enfant, avec des concerts, avec des spectacles vivants, pour accompagner ces rameurs, faire que le site soit vivant et qu'on puisse tous partager ça et échanger aussi autour de tous ces sujets-là dans une ambiance très familiale et conviviale.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais voulu revenir un petit peu sur le Marais d'avant et surtout sur l'isolement qui, justement, du Marais. Vous avez parlé un petit peu des tracés, des routes un peu qui ont été faites, mais avant, à la fin du 19e siècle, il y a quand même eu la création des fameux ponts ferrailles qui ont permis justement le non-isolement. isolement des gens, justement. Parce que vous parliez des villages, mais il y avait quand même des fermes isolées. D'ailleurs, il y a beaucoup de contes et de légendes que Yannick Jolin a fait un célèbre CD, qui est magnifique d'ailleurs, sous ces légendes. Et j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous en parler un petit peu, puis aussi de l'insalubrité du Marais, où il y avait quand même beaucoup de maladies. C'était quand même très, très compliqué d'y vivre.
Sur l'isolement, je pense qu'il était malgré tout relatif, parce que les gens marchaient avec les bateaux. On l'a dit, tout se faisait par voie d'eau. Et sur le haut, ben, les gens marchaient. Ils avaient des animaux. Je pense qu'on se fait une image un peu erronée d'une société un peu fermée sur elle-même. Ce n'était pas si net que ça. Sur l'insalubrité, j'ai aussi beaucoup de doutes. Parce qu'en fait, l'insalubrité, c'est une très vieille histoire. Ça, les zones humides, les marais... Depuis l'Antiquité, traîne une très très mauvaise réputation qui repose sur des présupposés dont on sait depuis la fin du 19e qu'ils sont faux, c'est-à-dire la malaria. La malaria, ça veut dire quoi? Le mauvais air. C'est-à-dire qu'on pensait que des zones humides émanaient des miasmes pourrissant les airs et que c'est ça qui rendait les gens malades. En fait, ce qui rendait les gens malades, c'était plus des conditions d'existence extrêmement rudes et une alimentation pas toujours très riche ni très, très costaude. Mais ce n'était pas du tout la zone humide en elle-même. Il suffit pour s'en convaincre de considérer que depuis de toute éternité et de temps immémorial, ces espaces ont capté l'intérêt de populations qui sinon seraient partis. Les gens n'ont pas attendu que le marais soit aménagé pour y trouver des moyens d'existence qui leur convenaient tout à fait et pour y vivre dans des conditions qui n'étaient pas faciles, mais qui n'étaient pas un sujet de maladie. Cette question-là de maladie, c'est très frappant quand on lit les textes, c'est que c'est vraiment un regard porté par des gens de l'extérieur. C'est quelque chose qui ne se vérifiait pas sur le terrain localement.
Alors la question qui est dit, c'est pourquoi ça s'appelle la palue?
Les palus, c'est un des noms multiples des marais, parce qu'il y a d'autres appellations suivant les endroits. Donc Saint-Hilaire-la-Palue, parce que c'est Saint-Hilaire du Marais, effectivement.
C'est quoi en latin, non?
Le paludier, voilà. Le paludisme, c'est cette maladie dont on ne comprenait pas les origines jusqu'à ce que Henri Lavrant, scientifique de la fin du 19e, médecin, identifie le fait que le moustique était le vecteur. Sauf que le problème du moustique, c'est quand les eaux sont stagnantes. Et dans le marais, les eaux ne sont pas forcément stagnantes.
Alors, au niveau santé, quand même, les gens qui sont sensibles, qui ont de l'asthme ou le milieu n'est pas très favorable quand même.
Oui, bonjour. Moi, j'interviendrai un peu sur l'évolution du marais. C'est vrai que depuis, vous avez dit 1840, le marais a bien évolué. Et ce qui se passe actuellement, est-ce que ce n'est pas une évolution normale? Est-ce que les gens veulent aussi avoir leur confort, leur bien-être et vivre encore dans des cabanes? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à y vivre sans télé, sans électricité, sans rien du tout, quoi. Sans les moyens de communication actuels. Et c'est vrai qu'on a beau dire, on voudrait conserver le marais comme il était. Les vrais marouins, je ne sais pas s'ils voudraient retourner 50 ans en arrière, quoi. Voilà, donc c'est simplement une réflexion. Mais je pense qu'il faut aussi en tenir compte avec tout ce qui se passe actuellement. Voilà, merci.
Alors, ce que je voulais dire, dans l'isolement des marais, autrefois, on avait les foires dans toutes les communes où il y avait des marchés qui étaient dans toutes les communes, dans toutes les petites communes. Et du coup, c'était quand même régulier et ils allaient au marché. Il y avait un marché dans chaque village et ils se déplaçaient. Et puis, il y avait les vieilles. Les vieilles jouaient aux cartes, ils jouaient au palais, il n'y avait pas la télé. Et les gens se rencontraient quand même beaucoup à l'époque, entre voisins, certes.
On faisait des veillées à mes parents, on faisait des veillées avec... Mais c'est vrai que ça a été la cassure, c'est la télé. Hein, parce que tous les hivers, on veillait chez les voisins venaient chez nous. Hein.
Est-ce que la vraie cassure n'a pas été aussi la disparition du monde agricole, puisque la plupart sont partis et l'émigration? Parce que, vous savez, quand les gens vous vendent l'authenticité, s'il y a un mot qu'on devrait proscrire à jamais, c'est l'idée d'authenticité. Puisque l'authenticité, elle est toujours au moment présent, mais elle n'est pas le passé sanctifié ou le futur illusoire. De toute façon, on est fichu. Donc cette authenticité...
les parents, quand j'avais 15 ans, les parents, tout le monde était paysans, ils se débarrassaient de nous l'hiver, c'est pas que nous faire faire les paysans. Ils nous emmenaient à l'école d'agriculture d'hiver de Saint-Mexant. Et on avait un professeur, M. Caillard, je me rappelle encore du nom. Vous savez ce qu'il nous disait, nous? Parce que j'ai des petits copains qui venaient à l'école. Vous, les gars du Marais, qui nous disaient, vous, les gars du Marais, vous êtes tous des descendants d'Arabes. Mais il nous disait pas, mais il nous disait pas ça sous le sens de, voilà, parce que y a eu Poitiers, et donc ça, on parlait ça des hutiers, tout ça. Ça vient de là aussi, ces gens qui étaient l'armée, qui se déplaçaient, ils se sont mis là. Et donc il y a encore des noms qui sont, ah vous ben. Avez des morts, des morissés, des brunets, des brunois, des bruns.
Ça va même plus loin, tous les noms qui se terminent en haut, Philippot, Jeannot, etc., tout ça, c'est des noms hérités des morts espagnols qui sont venus dans la région.
Vous avez des métiers qui ne venaient pas trop parler, et puis même de l'exploitation agricole. C'était le métier de le chanvre. C'était une grosse activité sur la commune de Saint-Hilaire.
Oui, mais maintenant, ils ne font plus que le fumer.
Oui, là, c'est le fumer. Mais à l'époque, c'était quand même des outils qui étaient indispensables. Ça, je voulais simplement vous en parler. Dans la mesure où, par rapport à ma famille, il y avait donc une famille de cordiers. Qui était donc Fernand Juin, il y a plein de Saint-Hilaire, les anciens ont entendu parler, connus. Cette corde qui était fabriquée, donc, c'était quelque chose de très commun dans la région et même dans nos communes. Il faut savoir quand même que quand vous avez parlé tout à l'heure des tuiles, je tenais à le citer, c'était un maréchal qui a inventé la machine à couper les tuiles, Fernand Juin. C'est lui qui l'a mis ça au point, cette machine.
Et c'est un Boquin qui a inventé la corde à virer le vent.
Oui, mais il y a aussi la corde à virer les sauteries. Les rigoles qui ont été creusées, ça commençait en 1845. C'était ça, les grandes activités. On utilisait, donc, il y avait une personne qui passait. Et on attendait les maréchins. On attendait que vienne le curage des conches. Et on mettait en place des dizainiers. Et un dizainier, ça voulait dire qu'il fallait 10 personnes pour curer les conches. Et celui qui devenait le chef, qui allait diriger l'équipe, il avait comme consigne de remplacer celui qui manquait. Vous voyez ce que ça représentait, hein? Et donc, le travail était très important sur le plan local à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, on est arrivé donc en 1920, quand il a été créé l'Union des Marais Mouillés. Et là, on est venu avec les pelles mécaniques. Et des pelles mécaniques, vous voyez, il y a eu le syndicat des Marais Mouillés, donc qui a eu lieu en 1833. Effectivement, on faisait des travaux. Et aujourd'hui, malheureusement, les financements qui existaient n'existent plus. Et maintenant, pour entretenir le marais, mais il n'y a pas que les financements, il y a aussi les habitants qui ne sont plus là. Les propriétaires des marais, c'est plus, ils ne veillent personne. Et vous savez, je vais bientôt en faire partie. Qu'est-ce que j'en fais de mes marais? Mes enfants ne veulent pas, personne n'en veut. Comment voulez-vous? Vous voulez même les louer? Personne n'en veut. Alors, il y a tout ce fondement qui existe comme en profondeur. Et vous avez souligné, effectivement, on ne peut pas regarder en arrière, on ne peut pas avoir de rétroviseur, on ne peut pas avoir de marche arrière. On ne peut qu'avancer, mais avancer comment? Et de quelle manière pour pouvoir continuer à faire vivre notre marais? Ça va être compliqué.
Oui, on a conscience de tout ça, mais on est pour quand même parler du marais, de l'avenir qu'il y a, et puis... de la satisfaction que les gens ont de se promener. Donc à nous de faire que ça soit agréable et que ça continue à être intéressant pour les gens puis les propriétaires.
Ils causons de même, nous, et puis ils organisons de veillailles et puis de serailles où on a tout plein de monde. Alors la prochaine, on est le 23 novembre avec un cochon qui allons griller la broche et crébé qui allons agorer. Qui nous retrouveront tous les mois. Le troisième jeudi de chaque mois à Courson pour causer de même. Et alors, ils ne faisons pas de discrimination. Tous les parlanges se valent parce qu'ils nous comprenons. Ils passent la Saint, surtout, peut-être ben. Les partout, la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces langues de terroir ont évolué selon les périmètres sud de Sèvres, nord Charente-Maritime, sud Vendée. Mais en fait, c'est l'ONIS. Et en fait, on est une bonne équipe là où on se remémore justement les expressions, etc. On fait de la transmission et c'est très, très important. On essaie d'inviter évidemment les familles avec les petits drôles et les arrière-petits drôles. Et puis, alors, on me coupait le subier, alors y arrête.
Juste pour clore ce petit passage-là, c'est de dire que de vous voir justement rassembler avec une telle envie d'échanger autour du territoire, autour de ce qui fait la communauté. Les grands enjeux pour demain seront notre capacité à faire communauté. Et ça, c'est la plus grande chose dans justement dans cette ruralité où on crève tout seul dans son trou. La seule manière, ce sera comment on fera communauté. Et si la langue, ou si juste cette envie de transmettre quelque chose, qui est un endroit de résistance aussi à l'appiongement collectif, hein, une langue, pour moi, et toutes les langues qui ne sont pas les langues utilitaires, qui ne sont pas les langues d'empire, qui ne sont pas les langues du commerce, sont des langues de résistance. Et en plus, c'est un patrimoine extraordinaire, parce que c'est une manière de décrire votre territoire. Parce que le problème chez nous, c'est la honte, comme dirait Cyril Nick, le plus sûr moyen de ne pas transmettre. La honte, le plus sûr moyen de ne pas transmettre. Et aujourd'hui, la génération dont je fais partie est la génération la plus schizophrène du monde, parce que c'est nous qui avons participé à la disparition de la langue, et c'est à nous qu'on confie la tâche de la transmission de cette langue. Donc il faut arriver à se décoloniser à l'intérieur et dire oui, ma langue a de la valeur et il peut la transmettre.
Bravo, bravo. Merci Yannick. Et puis je remercie tous les participants. Et puis il y a un certain nombre de maires des communes voisines. Il y a la députée qui est là, Pascal, président du parc. Donc je les remercie quand même d'être présents. Et puis vous tous, c'est important ces rencontres, c'est important ces discussions, même si c'est pas abouti parce que c'est trop court. Et puis on a trop de choses à dire. Mais bravo.
Merci. Et maintenant je vous demande d'applaudir Marie-Ange, Jean-Claude, Yves Lequellec et François qui ont accepté de participer à cette causerie.
Dernier mot en patois. Notre grand-mère nous disait « Allez dans le cri de l'aile dans le poids !» Vous savez ce que veut dire, ça ? Et puis, n'oublie pas de mettre la coussotte sur le sien.
La langue et le patrimoine sont des notions de valeur importantes pour Pigouille Radio. En espérant que cela vous ait autant plu que nous, les amis, on vous souhaite un bel été et à la semaine prochaine.
On vous embarque ?
On vous embarque ?
On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du marais.
On vous embarque.